France Inter, le 18-20.
Le 18-20 ce soir sur les projets pour la santé de François Fillon. Le sujet a émergé lors du dernier débat télé de la primaire. Pour faire des économies à la Sécu, il s'agirait de transférer aux particuliers et donc aux mutuelles le remboursement des soins courants pour les maladies bénignes. Il y aurait des plafonds, il y aurait des seuils de revenus pour que la mesure épargne les plus fragiles, les plus pauvres. Voilà les grandes lignes telles qu'on les connaît aujourd'hui. Cette réforme fait encore l'objet de nombreuses discussions au sein du Parti Les Républicains car elle marquerait une rupture dans l'histoire du système de santé français. Vos questions, vos demandes de précision également ce soir sur ce vaste chantier entrepris par François Fillon. Soyez les bienvenus dans le téléphone sonne.
Nicolas Demorand, le téléphone sonne.
Twitter avec le mot-clé Telson, franceinter.fr pour le courrier électronique et si vous préférez le standard de France Inter, 01 45 24 7000. Je salue Fabien qui ouvre ce téléphone sonne. Bonsoir, bienvenue.
Bonsoir. En fait, il semblerait d'une part que ça repose quand même sur un diagnostic de déficit durable de la sécurité sociale qui n'est pas tout à fait fondé puisqu'on voit que quand, par exemple, les 5 millions de chômeurs seraient remis au travail, ça s'est produit sous le gouvernement Jospin, les comptes sociaux sont à l'équilibre comme par un miracle. Et pourtant, ce candidat nouvellement désigné à droite prend ce postulat de départ erroné donc pour proposer une révolution de la sécurité sociale, mais dans le sens tout à fait néfaste, qui aboutirait à une division de la population en trois catégories. Ceux qui ont les moyens les plus aisés donc de se soigner à leurs frais, ceux qui auraient quand même encore un petit espoir de bénéficier de la solidarité nationale à travers des dispositifs comme la CMU, puisque visiblement il n'est pas question de revenir dessus, pour les moins favorisés. Et par contre, la grande majorité des Français qui, eux, supporteraient sur leur fonds particuliers, à travers des assurances privées ou les mutuelles, le remboursement que n'opérera plus la sécurité sociale. Ça, c'est très grave. Et on ne peut pas accepter ça dans la France de 2017.
Merci Fabien d'ouvrir le débat pour vous répondre. Frédéric Bizarre, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste, spécialiste des questions sociales et de santé. André Grimaldi, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur émérite au CHU de la Pitié-Salpêtrière. Serge Grouard, bonsoir.
Bonsoir.
Monsieur le député Les Républicains du Loiret, vous êtes responsable du projet de François Fillon. Est-ce que vous pouvez répondre à Fabien, s'il vous plaît?
Mais je ne me reconnais absolument pas dans ce qu'il vient de dire. Vous savez, j'ai le projet de François Fillon sous les yeux. Là, vous voyez, je l'ai, je peux vous le montrer, il est là et il y a un développement santé. Alors, je vais simplement citer la première phrase qui est mise en exergue. Je veux moderniser le système de soins, mais sans le privatiser ou remettre en cause la solidarité qui est son fondement. Voilà, je l'ai lu, j'espère l'avoir bien lu, parce qu'il y a depuis quelques jours toute une polémique que très sincèrement, il est difficile de comprendre, parce qu'elle est à l'inverse, c'est pratiquement à l'inverse de ce que veut François Fillon pour notre système de soins, qui aujourd'hui se dégrade. Personne ne peut le contester. Et nous, nous voulons le sauver. Et nous voulons le sauver en conservant ses fondamentaux, qui sont le principe de solidarité et d'universalité, donc pour tous. Donc c'est exactement l'inverse de ce que notre auditeur vient de dire.
Alors je passe la parole à André Grimaldi, qui a écrit un texte très vif, publié sur le site du Huffington Post, contre précisément les projets pour la santé de François Fillon. André Grimaldi.
Je me félicite du propos qui vient d'être tenu, mais j'ai aussi le programme de François Fillon.
Alors voilà, il est là.
Je l'ai. Vers un système de santé fondé sur la liberté et la responsabilité. Alors je le lis. Je lis la mesure en question, qui est redéfinir les rôles respectifs de l'assurance publique et de l'assurance privée, en focalisant l'assurance maladie, notamment sur les affections graves ou de longue durée. C'est-à-dire que l'hôpital, les maladies chroniques longues, et puis la CMU. Ce qui veut dire que les soins courants passeraient aux assurances complémentaires. Les soins courants, c'est en gros 16 milliards. Alors, cette mesure, elle ne diminue pas les dépenses de santé du pays. Elle diminue la dépense publique pour la privatiser. Hein, vous aurez votre assurance complémentaire quasi obligatoire. Sauf que les assurances complémentaires, mutualistes ou non mutualistes, les assurances privées, elles sont moins justes, Si vous êtes vieux, vous payez plus. Si vous avez des charges d'enfants, vous payez plus. Vous ne payez pas en fonction de vos revenus. Elles sont moins égalitaires. Elles dépendent de la gamme de votre couverture. Il y a à peu près 10 gammes. Vous pouvez être haut de gamme. On vous rembourse tous les dépassements d'honoraires. Vous pouvez être bas de gamme. Et puis, elles sont surtout plus coûteuses, moins efficientes. Le frais de gestion des complémentaires, c'est en gros 20% du chiffre d'affaires. La Sécu, c'est 6%. Donc, c'est un calcul qui consiste, certes, à diminuer la dépense publique, mais en augmentant la dépense privée. Donc, c'est absolument pas la solution. Alors, le plus grave de tout, c'est que, évidemment, les couches moyennes, les classes moyennes, elles vont plus rien recevoir de la Sécu. Celles qui sont bien portantes. Celles qui disent, elles vont payer pour la solidarité. Et puis, elles paieront une deuxième fois leur complémentaire, dont les tarifs auront doublé ou triplé. Et il se passera ce qui se passe aux USA. Ces classes-là diront, j'en ai marre de payer deux fois.
Je vais donner évidemment la parole à Frédéric Bizard, mais j'aimerais la redonner à Serge Grouard d'entrée. Deux lectures du même programme qui disent deux choses tout à fait différentes. Celle d'André Grimaldi qui vous cite à la lettre, qui cite le programme de François Fillon à la lettre, et vous venez dire pourtant l'inverse.
Une chose qui est importante dans ce que vous venez de dire et sur laquelle nous sommes d'accord, ce sont les frais de gestion. Ce sont des milliards aujourd'hui pour gérer ce système, pour de multiples raisons, mais parmi toutes ces raisons, notamment une, qui est que nous sommes le seul pays européen à avoir sur une ordonnance toute simple, toute bête, un double remboursement. D'un côté, la part qui est prise par l'assurance maladie, et de l'autre côté, la complémentaire. Moi, je ne veux pas que l'on fasse peur là-dessus, les complémentaires, elles existent, elles sont bien là. Il y a une part privée là-dedans. Donc, c'est un système qui existe déjà. On laisse croire que l'on est en train de bouleverser le système pour sortir de l'assurance maladie en allant vers un système privatisé.
Et donc ça, c'est pas le cas.
Mais c'est l'inverse. Pourquoi avons-nous parlé des affections de longue durée, les fameuses ALD dans le jargon ? Parce que nous voyons quoi ? Nous voyons qu'elles constituent une part importante de l'assurance maladie, qu'elles augmentent, professeur, je pense que vous êtes d'accord, vous êtes spécialiste, elles augmentent et elles vont continuer d'augmenter. Et nous, ce que nous voyons, c'est cette augmentation qui continue et à un moment où l'on risque de ne plus pouvoir assumer le remboursement, la prise en charge. Et là, ce que nous avons voulu dire, peut-être faut-il le préciser, mais nous avons voulu dire que nous avions là un socle à sanctuariser. Parce que ça, il faut que ça soit totalement couvert, prise en charge. Donc les affections de longue durée, les maladies longue durée, parce qu'elles augmentent, parce qu'il y a un coût très important et de plus en plus important.
Mais ceux qui ont les moyens se paieront leur grippe ou
mais
pas ?
Mais non, pas du tout. Mais pas du tout. Mais
parce que c'est ça ce qu'on comprend.
Mais justement. Donc, au contraire, nous voulons clarifier le système et nous voulons faire en sorte que son coût de gestion soit inférieur. Parce qu'aujourd'hui, quand notre auditeur disait tout à l'heure, il n'y a pas de problème de déficit. Mais enfin, aujourd'hui, quand on prend le cumul, le stock de déficit de l'assurance maladie, c'est combien ? Pose la question, vous le savez, ici, c'est plus de 100 milliards d'euros, 120 milliards, de l'ordre de 120 milliards d'euros. Et encore cette année, 4 milliards d'euros, a priori, on n'est pas encore à la fin de l'année, et il y a encore un prévisionnel de déficit pour l'année prochaine qui est inférieur, sera-t-il tenu, on verra, mais est-ce que l'on peut continuer indéfiniment avec, qui plus est, un système qui se dégrade ? Donc on veut le remettre à plat pour le sauver.
Frédéric Bizard et puis le standard. Bon,
je crois qu'il y a la première chose à faire, c'est le diagnostic du système. Il faut d'abord s'entendre si est-ce que ce système a besoin d'être réformé ou est-ce que finalement il est sur de bonnes rails. Est-ce qu'on peut considérer que on peut continuer comme ça ? Par rapport au changement de monde, aux révolutions technologiques, au passage de risques courts à des risques longs, puisque ce sont des pathologies chroniques maintenant par rapport au vieillissement de la population, notre système est en totale inadéquation avec le nouveau monde dans lequel on vit. On est sur un système de 45, hospitalo-centré, curativo-centré, qui était le meilleur au monde parce que c'est ce qu'il fallait faire au XXe siècle. Avec l'allongement du risque et la chronicisation des pathologies et toutes ces révolutions technologiques, il faut passer d'une gestion, ce qu'on appelle en aval du risque, c'est-à-dire attendre que les gens soient malades et les soigner, à une gestion en amont du risque. esprit. C'est-à-dire qu'il faut démarrer dès la petite enfance, où il faut faire de l'éducation à la santé, où il faut davantage impliquer et rendre actifs les patients. Donc notre système prend l'eau de tous les côtés. Il faut que ça soit au moins un diagnostic partagé par tous les partis politiques et tous les Français. Alors évidemment, on a l'impression...
C'est pas le cas, a priori.
Non, mais on a l'impression d'être encore bien soigné.
Frédéric Bizarre et Serge Grouard, vous êtes d'accord, André Grimaldi demande déjà la parole.
Allez-y. Donc, alors, c'est vrai que si on est toujours bien soigné, il faut voir qu'il y a 2 millions de soignants à l'intérieur du système. Vous avez des taux de suicide qu'on n'a jamais atteints chez les infirmières dans le secteur public. Vous avez 30% de postes vacants chez les personnels hospitaliers, chez les médecins hospitaliers. Vous avez des médecins libéraux qui ne s'installent plus. Donc, aujourd'hui, ce sont les soignants qui sont victimes de tout ça. Mais demain, c'est inévitable. Et qui portent avec leurs mains le système. Bon, donc demain, c'est forcément les soignants. Après, juste, je vais revenir. Donc, à partir de là, comment est-ce qu'on fait? Il faut établir des principes. Moi, j'ai pas entendu qu'il y avait, c'était la fin de la solidarité, que c'était la fin de la liberté dans le système, qu'on allait vers un système américain. Mais j'ai peut-être mal compris. En revanche, il est clair que dans le programme, et là on arrive sur des mesures techniques. Moi je suis ravi que les auditeurs s'intéressent aux mesures techniques.
Et on va leur rendre la parole.
Mais c'est tellement complexe. Donc le système de financement, c'est un système à 4, c'est une fusée à 4 étages. Oui, en effet, il faut revoir les champs d'intervention de l'assurance maladie et des organismes d'assurance privée. Parce qu'aujourd'hui, vous avez un système à 2 étages qui est devenu totalement inefficace. D'accord? Donc, il faut le revoir. C'est pas ici qu'on va les revoir. C'est déjà en fonction de la situation existante. Je vous prends un exemple. Les lunettes qui sont remboursées à 4% par l'assurance maladie. Est-ce que ça a la moindre intérêt que l'assurance maladie rembourse les lunettes? Deuxième étage de la fusée, c'est qu'il faut encadrer. Et ça, c'est pas assez clair dans le programme de François Fillon. Que fait-on du financement privé? Est-ce qu'on laisse le marché le faire? Est-ce qu'on laisse la jungle actuelle? Ou est-ce qu'on l'encadre? Il faut l'encadrer. Troisième étage de la fusée, il faut une agence de régulation et de contrôle pour contrôler tout ça. C'est dans le programme.
C'est
et quatrième
programme,
étage, il faut supprimer les réseaux de soins et le remboursement différentiel.
La parole retourne au standard et à José qui nous appelle. Bonsoir, bienvenue.
Oui, bonsoir. Merci beaucoup de prendre le temps de m'écouter. Voilà, moi, je suis vraiment étonnée devant cette avalanche de chiffres. Moi, je suis une petite retraitée, voilà. Et si j'avais pas mon époux pour m'aider financièrement, j'avais un petit salaire, un petit revenu. J'ai travaillé toute ma vie. Avec 1000 euros, j'ai actuellement une mutuelle complémentaire qui me coûte plus de 100 euros par mois parce que j'ai voulu aussi avoir une prise en charge la moins mauvaise possible. Mais si j'étais seule, je pourrais pas. Et je pense à toutes ces femmes qui se retrouvent à charge de famille, qui se retrouvent aussi vieillissantes, avec souvent des emplois précaires ou pas d'emploi du tout. On va vers une paupérisation de la société et c'est les gens qui ont le plus besoin de soins qui ne pourront plus avoir accès. Je parle pas de l'ALD, je ne parle pas des maladies qui sont bien prises en charge. On a un super système de santé qu'on est en train de détricoter. On va vers un système à l'américaine. Voilà, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Les plus riches, ils pourront toujours s'offrir des complémentaires de qualité et les pauvres, ils auront des options bas de gamme. Mmh. Et quand vous avez besoin d'un dentier ou d'une bonne paire de lunettes parce que vous avez 70 ans et que vous arrivez plus à lire ou à entendre, je ne parle même pas des prothèses auditives qui sont hors de prix. Donc en fait, les gens qui peuvent, les gens qui ont les moyens, ils pourront, voilà. Et les gens qui ont travaillé mais qui ont eu des petits revenus, ils ne pourront pas. Qu'est-ce qu'on fait pour eux?
Merci José pour votre intervention. Je donne la parole à Bernard tout de suite avant de la faire circuler ici en studio. Bonsoir Bernard.
Oui, bonsoir.
Nous vous écoutons.
Oui, j'avoue que, comment dire, l'intervention précédente pratiquement a très très bien résumé ce que je voulais dire. C'est-à-dire que moi, je voulais demander le bouclier aux plus pauvres, voilà, à partir de d'où il se situe. Hein.
Les seuils.
Moi, j'ai, je suis à la retraite, j'ai 1200 euros. Mon épouse, qui a le minimum vieillesse, est à 500 et quelques euros, voilà. Je paye déjà 1200 euros de mutuelle par an. Donc, voilà. Mmh. Est-ce que je suis au-dessus ou en dessous de ce bouclier? Ça, c'est ma première question. Mmh. Ma deuxième question, c'est les maladies bénignes. Eh ben, je sais pas, moi, dernièrement, j'ai une poussée de fièvre à 39 degrés 1. par exemple, est-ce que c'est une maladie bénigne ou non? Et pourtant, je suis même pas allé chez le médecin. Hein. Mmh. Je me suis soigné tout seul. Mon épouse a une infection suite à des piqûres de tiques, etc. Des problèmes de dos, des problèmes, etc.
Est-ce que c'est bénin ou pas?
Maladie bénigne ou non? Voilà.
Merci donc, Bernard. Merci pour cette intervention qui va effectivement dans le même sens que celle de José André Grimaldi.
Oui. Votre interlocutrice, là, elle paye 100 euros par mois pour sa complémentaire. Dans ces 100 euros, il y en a 20 qui sont des frais de gestion. Quand elle paye 100 euros à la Sécu, il y en a 6 qui sont des frais de gestion. Alors, je comprends pas.
La Sécu est mieux gérée que les complémentaires.
Mais oui, je comprends pas pourquoi on choisit un impôt privé. Parce que c'est un impôt privé. Tout le monde sera obligé d'avoir une mutuelle par rapport à un impôt public. Avec un impôt privé, plus injuste, moins efficace, plus cher. Quelle est la cohérence de ça? Alors, la vérité, c'est que la France dépense comme les pays riches, pas plus. Nous sommes autour de 11,8 du PIB, comme l'Allemagne qui est passée un peu devant nous. Les Pays-Bas sont devant nous. Nous sommes dixième, si on calcule, en euros ou en dollars par habitant. Donc, comme le Canada, comme la Belgique, comme... Bon, il y a les USA qui sont à 17% du produit intérieur brut pour la santé. La moitié privée. Est-ce qu'on veut aller vers ça? Et si pourquoi c'est un tel coût? À cause des assurances complémentaires, de l'assurance privée. C'est sur ça qu'Obama s'est cassé les dents. On ne faut pas mettre le doigt vers ça. Alors par contre, faire des économies. Parce que, est-ce qu'il faut faire des économies? Oui. Alors il y a trois sources. Vous avez raison quand vous dites qu'il faut un seul financeur et pas deux. C'est 7 milliards de gestion la Sécu, puis 7 milliards des complémentaires. Donc, un seul financeur. Alors, il faut des assurances supplémentaires quand ce n'est pas du tout les soins courants. Quand vous avez une prostatite et 39 de fièvre, ça doit être remboursé par la Sécu. Vous avez une cystite, une pyélonéphrite, c'est remboursé par la Sécu. Par contre, vous choisissez des soins de confort. Vous aimez les cures thermales. Peut-être que vous avez une assurance privée supplémentaire. Vous aimez l'homéopathie. Peut-être que vous avez une assurance privée supplémentaire. Alors, je vous pose la question. Les cures thermales. Vous voulez passer au complémentaire ou pas?
Serge Grouard, député Les Républicains, responsable du projet de François Fillon.
Tous les députés ont refusé.
Non, mais la question...
Non, mais attendez, s'il vous plaît, j'ai donné la parole à Serge Grouard, vous l'aurez juste après, Frédéric Guizard.
Je pense que c'est un très bon exemple, effectivement, vous illustrez effectivement notre propos initial. Vous l'avez dit, je ne peux pas le dire mieux que vous, professeur. Voilà. Donc, bon, alors la cure thermale, je ne vais pas vous répondre ce soir, la cure thermale, pas la cure thermale, ceci,
mais
cela.
Si,
on va préciser.
Parce que pour les électeurs...
le projet. Mais effectivement, ce que je veux dire à nos deux auditeurs, absolument, c'est que justement, parce qu'on est, sensible à ce qui se dit, et il est impossible que l'on aille, et l'on peut y aller imperceptiblement, vers une sorte de santé à deux vitesses. Ceux qui peuvent se la payer, et ceux qui peuvent pas. Et ça, c'est d'une injustice insupportable. Parce que s'il y a bien quelque chose que nous devons avoir en commun et pour laquelle l'égalité doit être absolue, c'est la santé. Il n'y a pas des gens riches qui peuvent se la payer, d'autres qui ne pourraient pas. Ça, c'est insupportable. Et précisément, c'est ce que nous avons également écrit dans le projet. Je ne vais pas lire, mais bon, les moins favorisés bénéficieront d'un régime spécial de couverture accrue. Parce qu'on est bien conscient, y compris avec le vieillissement de la population, avec les besoins de soins qui sont afférents, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, qu'il y aura des besoins avec des gens notamment qui ont des petites retraites. Mais ce que l'on ne veut pas... Le message de François Fillon, c'est un message de vérité et qui ne cache pas les choses. Aujourd'hui, nous avons un système qui a ses mérites, c'est évident, mais nous avons un système qui se dégrade et nous avons un système qui est en déficit chronique. Donc comment arriver à réconcilier tout cela? Et effectivement, toutes les solutions que vous êtes en train de dire, elles me semblent pertinentes et intéressantes. Il faut les étudier et on va le faire avec l'ensemble des professionnels de santé. Simplement, on est à 48 heures après le deuxième tour de la primaire.
Alors, Frédéric Bizarre, mais... puis Marie au standard.
Oui, alors, j'ai sorti un livre il y a 9 mois qui s'appelle Complémentaire Santé, le scandale. Donc, je connais très bien ce secteur-là et j'ai dénoncé tout son dysfonctionnement qui est largement responsable des renoncements aux soins qui existent. Donc, c'est pas moi qui vais faire la promotion de la participation des assureurs privés. Maintenant, ils sont là. Ils sont là, il y a un marché de 35 milliards d'euros avec les organismes d'assurance privée, mutualistes, non-mutualistes, instituts de prévoyance. Bon, moi je pense qu'il y a un principe de réalité qui s'impose. On peut rêver ou faire de l'utopie en disant il faut qu'on substitue à tous ces organismes-là l'assurance maladie. Ça existe en Angleterre, mais on change de système de santé. Il faut voir que, par exemple, en Israël, au Canada, en Suisse, vous avez une participation de l'assurance maladie entre 60 et 70%. En France, elle est de 76,6%. Mais c'est pas ça la privatisation. C'est pas parce que vous avez des organismes d'assurance privée que vous privatisez. La privatisation, c'est ce qu'on a fait en 2013 avec la loi Le Roux. C'est-à-dire, c'est quand vous donnez la possibilité à ces organismes d'assurance privée d'intervenir sur la gouvernance des soins. C'est-à-dire de décider là où les Français vont aller être soignés et comment ils vont être soignés. Et donc, de décider comment ils vont être soignés, c'est avec des coûts bas pour ceux, en effet, qui n'ont pas les moyens d'avoir des contrats de qualité et avec toute l'innovation pour ceux qui ont les moyens. Donc, d'une inégalité sociale qui est plus d'ailleurs en amont de la prise en charge, qui est liée à l'absence de prévention chez les couches les plus populaires, on arrive à une inégalité sociale dans le soin. Donc il faut arrêter tout de suite ce qui a été démarré, sauf erreur de ma part, en 2013, c'était pas Fillon qui l'avait fait, mais il faut que là-dessus Fillon s'exprime clairement sur le rôle qu'il veut donner aux organismes d'assurance privée et comment est-ce qu'il veut encadrer leur prise en charge.
André Grimaldi veut la parole et on retourne au standard.
Non, juste un mot. Donc si François Fillon applique ce qui est dans son texte, mais il va changer, à mon avis. Il y a 16 milliards, donc 35 milliards actuellement de budget, 16 milliards de la Sécu qui passent aux complémentaires. Et vous croyez que les complémentaires, toutes, qui paieront intégralement, qui rembourseront intégralement les soins courants, vont pas organiser les filières de soins concurrentielles? Mais c'est leur but,
et
elles leur disent.
Oui, non, mais attendez, vous savez...
Mais c'est le doigt, et c'est d'ailleurs, c'est pas un hasard, si quand même un des conseillers est un ancien directeur de AXA. C'est-à-dire que depuis, et ce n'est pas des idées nouvelles, je m'excuse, celle de Fillon, ça date des années 80, l'histoire de séparer le petit risque du grand risque, qui est une inéthique médicale.
C'est de clarifier.
Ils vont mettre des concurrences, parce que vous dire, c'est la seule façon de faire baisser les prix, c'est de mettre la concurrence entre des filières de soins. C'est-à-dire que vous passez la main aux financeurs.
Mais ça, c'est en
cours. C'est ce qui se passe aux USA.
C'est ce qui se passe depuis 2013.
Mes collègues me disent, j'ai une malade qui a une maladie hématologique. Le médecin demande au financeur, entre tel médicament et tel médicament, lequel il prescrit. Bon, si on fait ça, on aura une grande régression. Alors, vous voulez faire des économies. Je vais vous donner quelques pistes quand même.
Mais c'est pas une...
Car au fond, ça fait assez longtemps qu'on y réfléchit. Vous avez, en France, beaucoup de médicaments inefficaces. 15%, 30% de remboursement. Il n'y a aucune justification. Vous avez l'homéopathie, c'est 180 millions. Les cures thermales, c'est 400 millions. Remboursé par la Sécu. Vous avez des prescriptions injustifiées. Vous avez des hospitalisations évitables. Tout simplement parce qu'il n'y a pas d'un service de médecine de proximité suffisamment construit.
Totalement.
C'est 20% des dépenses. Alors mettons-nous sur le sujet. Et si vous voulez, après on pourrait discuter techniquement comment on peut se mettre sur le sujet d'une régulation médicale.
Mais ne changeons pas de philosophie, c'est ça ce qu'on voulait dire.
Le coût des médicaments, si vous voulez, le coût pour l'hépatite C, c'est 41 000 euros un médicament qui coûte 250 euros. Il est vendu 41 000 euros.
Je reprends un exemple que vous dites à l'instant qui me paraît très intéressant. C'est comment effectivement on décharge l'hôpital d'une partie des tâches qui sont indues, qu'ils ne devraient pas faire. Pourquoi sont-elles faites? Parce que on a une désertification médicale, et dans certains cas, on a des gens qui ne peuvent pas faire autrement que de venir aux urgences, tout simplement, et on a une sorte d'embolie des urgences. C'est une situation qui est catastrophique, qui ne date pas d'hier, mais qui s'aggrave jour après jour.
18 millions de passages par an.
Voilà, et je crois que c'était deux fois moins il y a quelques années, ou quelque chose comme ça. Bon, donc là, qu'est-ce que l'on dit? Ça, c'est inefficace, et ça coûte très cher. On veut effectivement reprendre la couverture médicale géographique. On veut développer ce qui existe déjà, mais on veut les développer, les fameuses maisons médicales avec des petites urgences qui coûtent infiniment moins cher, qui sont à proximité de chez soi et qui permettent d'être soigné beaucoup plus vite. Parce que quand vous allez aux urgences, que vous y passez 12 heures, 15 heures, 20 heures à attendre sur un brancard dans un couloir, c'est franchement indigne. Et j'en profite pour dire, si vous me le permettez, parce que j'ai présidé un hôpital pendant 15 ans, que je dis... mon respect et mon affection pour les personnels hospitaliers. Parce qu'ils font un boulot, il n'y a pas beaucoup de gens qui voudraient le faire dans ces conditions-là. J'ai vu des médecins urgentistes avec les yeux au milieu de la figure. J'ai vu des personnels qui n'en pouvaient plus.
On a fait de nombreux téléphones sonnes sur le sujet. Donc, que ce soit les personnels hospitaliers ou les patients, sont bien conscients. S'il vous plaît, Frédéric Bizard, puis Marie au standard.
Mais donc, une fois qu'on a dit ça, c'est pas simplement en essayant de faire des économies, en regardant là où on peut en faire, qu'on va améliorer cette situation. C'est vraiment en transformant le modèle. Il faut que les auditeurs sachent une chose. Le niveau de remboursement par les organismes d'assurance privée, par les complémentaires, par les mutuelles, c'est 27 milliards d'euros, d'accord? Plus 7 milliards, ça a été dit, de frais de gestion. À quoi servent ces 27 milliards? L'objectif, c'est que ces 27 milliards servent à couvrir un vrai risque. Le risque, c'est pas petit risque ou gros risque, et ça a été une maladresse, à mon avis, de langage, parce que nous, quand on entend ça, enfin, quand les gens entendent ça, ils entendent ça par rapport à un risque médical. Or, quand on raisonne par rapport à un système d'assurance, c'est par rapport à un risque financier. Par exemple, dans le dentaire, l'assurance maladie doit rester dans les soins conservateurs qui coûtent 20 à 30 euros, mais elle représente 10% des dépenses dans les soins prothétiques qui représentent 700 à 800 euros. Donc là, probablement qu'il va falloir organiser ce marché avec les organismes d'assurance privée pour les soins prothétiques. Mais dans ces 27 milliards, les 15 milliards dont vous parlez, ou 16 milliards dont vous parlez aujourd'hui, servent à rembourser des tickets modérateurs, c'est-à-dire ne servent à rien. Il faut que les Français sachent que 15 milliards d'euros des remboursements par leurs complémentaires ne sert à rien, c'est-à-dire ne les protège pas. Le risque, il est sur ce qu'on appelle les dépassements d'honoraires, c'est-à-dire la tarif libre, le tarif libre, mais de façon abusive, les dépassements d'honoraires, parce que quand vous avez des lunettes qui sont remboursées 10 euros, une lunette ne vaut pas 10 euros, ça vaut 250 euros. Donc vous voyez qu'on n'est pas dans des dépassements, on est dans des tarifs libres du fait de tarifs de sécu qui n'ont pas été repris. Donc il faut utiliser ces 27 milliards pour rembourser du soin et du vrai, baisser les frais de gestion. C'est la raison pour laquelle il faut réorganiser les paniers de soins.
Marie, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Soyez la bienvenue.
Merci. Alors, depuis tout à l'heure, on parle de beaucoup de choses, mais on oublie l'élément central qui est le patient. Alors, moi, je vais faire peut-être hurler un petit peu dans les chaumières. Déjà, je voudrais dire que nous sommes, mon époux et moi, des petits commerçants et que difficilement nous arrivons à nous faire un petit SMIC par mois. Nous payons très cher en RSI pour être très peu couverts. Ça, tous les commerçants comprennent très bien ce que je veux dire. Pour autant, je pense que moi, à titre personnel, je suis tout à fait contre la gratuité. Parce que la gratuité fait que nous ne sommes pas du tout conscients et attentifs aux dépenses. J'ai un exemple extrêmement précis. Mon époux a été hospitalisé pour un accident du travail. Il avait une infiltration à faire à l'hôpital de la Source, que M. Grouard doit bien connaître.
Oui, très bien.
Et il se trouve, pour X raisons, on n'a pas pu lui faire l'infiltration. Il a été hospitalisé 4 jours. Il a eu en tout et pour tout, pour unique soin, du paracétamol. Eh bien, lorsque la facture est arrivée, on lui avait facturé la visite d'un grand professeur qu'il n'a jamais vu et un certain nombre de soins qu'il n'a jamais reçus, ce qui a quand même monté la facture à quelque chose comme 1000 euros par jour, pour des soins qu'il n'a jamais eu. Évidemment, nous avons fait un courrier en signifiant qu'il y avait une erreur de facturation. Et puis, mea culpa, comme on ne payait pas, on a laissé tomber. Je peux vous garantir que si j'avais eu à payer cette facture, j'aurais jamais lâché le bout. Donc je pense que, alors, protéger les faibles et tout ça, moi je suis la première à le dire, puisque je vous dis, nous avons des tout petits revenus. Mais pour autant, que ce soit totalement gratuit, c'est une erreur, parce que ça nous dédouane et ça déresponsabilise le patient sur une attention. C'est la même chose qu'avec les médicaments. Nous connaissons tous des gens, en particulier, mes voisins que j'aime beaucoup sont
des personnes... On comprend bien, Marie. On va rester sur la... Marie, s'il vous plaît. Marie, s'il vous plaît, on va rester sur la première question et sur la première expérience que vous décriviez. Je passe la parole à André Grimaldi et je la fais circuler ensuite. Merci d'être intervenu.
Oui, sur cette question-là, d'abord, il faut dire que la prescription, ce n'est pas le patient qui l'a fait. C'est le médecin. Le médecin, il a prêté un serment éthique, qui est le juste soin pour le patient, tout ce qui est nécessaire, au moindre coût pour la collectivité, parce que la sécurité sociale, c'est un bien collectif. Donc, tout gaspillage est inéthique. Alors, après, je ne comprends pas comment on peut voir un soi-disant professeur avec des factures privées qui sont remboursées quand même. Bon, tout ça est un peu bizarre. Donc, c'est pas les malades qui prescrivent, c'est les médecins. y compris quand un taxi est prescrit de manière abusive, c'est qu'il y a eu un bon de transport prescrit de manière abusive par un médecin. Donc ça, c'est un point réel. Il y a des excès de prescription. Alors néanmoins, dans la maladie chronique, il est démontré par de grandes études, y compris américaines, y compris avec des méthodologies très rigoureuses, que la gratuité coûte moins cher. Hein, des gens qui ont fait un infarctus du myocarde, il y a ceux à qui on va donner le traitement gratuit et ceux à qui on va le faire payer avec le reste à charge des grandes assurances privées américaines. Le bilan de l'affaire, c'est que l'observance du traitement est meilleure quand c'est gratuit, les récidives sont moins nombreuses. Pour l'assureur privé qui a mené cette étude publiée dans la plus grande revue internationale, le coût est moins élevé. Mmh. Dans les maladies chroniques, c'est le sens des affections de longue durée, qui sont des maladies évolutives, la gratuité ne coûte pas plus cher, mais moins cher.
Pas dans les soins courants.
C'est les maladies chroniques qui sont 60%, comme vous le disiez, des dépenses de santé et qui sont le grand problème du système de santé. Or, dans le programme de François Fillon, cette histoire de bouclier n'est pas un bouclier. On parle d'une franchise médicale universelle. C'est-à-dire que tout le monde paierait. Même les affections maladies chroniques. Donc, tout
plafonné.
Non, mais c'est une erreur.
Serge Grouard.
Mais les franchises, c'est une erreur.
Serge Grouard, s'il vous plaît, messieurs, s'il vous plaît, il va falloir, Serge Grouard, faire preuve de beaucoup de pédagogie, parce que je peux vous dire que au standard de France Inter, il y a une incompréhension très forte de ce qu'est la position de François Fillon. Est-ce celle que décrit, en vous citant André Grimaldi, est-ce celle qui ne change pas grand chose au système actuel que vous venez de décrire? Où êtes-vous exactement, qu'on comprenne?
Par rapport à toute la polémique qui a eu lieu,
c'est un débat.
De manière intentionnelle,
de manière ouverte.
Non, merci de ce débat parce qu'effectivement, j'espère que le débat est de qualité.
Il l'est.
Et on voit bien que la polémique n'a pas de sens. On voit bien que l'on est face à une situation qui est complexe. On voit bien que l'on a ce risque, voire cette réalité de la dégradation, et qu'il faut la prendre en compte. Très clairement, pour essayer de faire œuvre de pédagogie, il n'y a pas de logique de déremboursement dans ce que propose François Fillon. Il n'y a pas de logique de privatisation dans ce qu'il dit. Il y a une volonté, comme le débat l'a montré, de clarifier le rôle de l'assurance maladie et le rôle des complémentaires, sachant que, je le redis une troisième fois, le coût du système, le coût de gestion du système est extraordinairement lourd et que c'est de l'argent gaspillé. Ce sont des milliards qui sont gaspillés et qui ne vont pas au profit du patient, qui ne vont pas au profit des soins. Voilà l'essentiel sur la position de...
Attendez, juste que je comprenne, Serge Grouard, pour aider justement à la clarté du débat. Tout ce qu'on a pu entendre lors du débat entre François Fillon et Alain Juppé, tout ce qu'on a pu entendre depuis François Fillon au journal de 20h dire qu'il y aurait effectivement un bouclier qui protégerait les plus pauvres, ce qui laisse penser, dès lors qu'il y a un bouclier, que pour les autres, ce serait différent. Donc tout ça, nous l'avons rêvé ou pas? Moi, je ne comprends plus rien.
Les franchises n'existent pas aujourd'hui. Des franchises, il y en a 4 ou 5. Hein, entre le forfait hospitalier, le ticket modérateur, les franchises sur ordonnance, sur médicaments, et les franchises y compris pour les transports de santé, voilà, il y a des franchises partout. Voilà encore un système où on a accumulé une complexité impressionnante. Nous pensons que la gestion, la bonne gestion, l'efficacité peut permettre de gagner beaucoup là-dessus, d'économiser beaucoup. Et non seulement ça ne remet pas en cause la prise en compte, la prise en charge des patients, mais au contraire, ça permet de l'améliorer, parce que si l'on continue comme l'on est aujourd'hui, on va aller dans le mur. On veut éviter le mur.
Alors, mais Frédéric Bizarre, puis André Grimaldi.
Non, mais cette idée de franchise est une mauvaise idée pour trois raisons. La première, c'est que d'abord, ça rompt le principe solidaire. Il faut savoir que le principe solidaire est basé sur le fait qu'il y a une égalité face à la maladie. Si je gagne plus d'argent que vous, je paye davantage à l'entrée, mais je reçois la même chose à la sortie. Ça, c'est un principe fondamental. Et je suis étonné qu'on a beaucoup critiqué d'avoir mis sous condition de ressources les allocations familiales. Et si on veut faire la même chose pour la santé, c'est pas tout à fait cohérent. La deuxième chose, c'est que ça se transforme vite en impôt, parce qu'au début, on vous met 2% de revenus, et puis quand il y a des déficits, on met 3, on met 4, et en fait, c'est un impôt déguisé. La troisième, c'est qu'on ne peut pas non plus dire, il ne faut pas que ça soit gratuit, et dire à partir d'un certain moment, c'est gratuit. C'est-à-dire que là, vous avez un effet incitatif. Oui. L'intervention de votre auditrice était très intéressante, parce que qu'est-ce qu'il faut faire pour encadrer, au-delà de cette autorité de régulation. Il faut un contrat homogène, standard, qui soit le même pour tous et il faut supprimer ces contrats collectifs. Il faut mutualiser sur l'ensemble de la population sur lequel vous mettez, je suis désolé professeur Grimaldi, le principe de réalité fait qu'ils sont là. Donc on a un marché sur lequel vous mettez le même contrat dont les garanties sont décidées par les pouvoirs publics. On ne laisse pas les organismes d'assurance privée décider de ce qu'ils veulent rembourser et comment ils le font. On les laisse avec le marché proposer des primes et proposer des services. Vous avez un comparateur public qui permet aux Français de comparer. Donc je finis, vous avez une assurance santé universelle de base qui est l'assurance maladie et vous avez une assurance santé supplémentaire universelle qui est obligatoire et mutualisée sur l'ensemble de la population, ce
André
qui permet de couvrir l'essentiel des
Grimaldi.
Soins.
Alors, les franchises, ça a été évalué. Hein. Les franchises, c'était fait, soi-disant, pour responsabiliser les patients. C'est toujours le même discours. Faut payer pour être responsabilisé. Alors, ça a été évalué. Ça n'a rien responsabilisé du tout. C'est-à-dire que les gens qui avaient les moyens ont continué à dépenser tout autant, parce que les riches dépensent plus de santé à maladie égale que les pauvres. Hein. Dans la CMU, les gens ne profitent pas complètement de la CMU auquel ils ont droit, contrairement à ce qu'une idée répandue. Toutes les statistiques montrent ça. Par contre, ça a augmenté les inégalités. Faites payer les gens, et bien vous augmentez les inégalités sociales de santé. Bon, les inégalités sociales de santé en France, elles ont augmenté. Alors, après on pourrait dire, mais vous voulez un seul financeur, ce qui est tout à fait raisonnable. Ça évite d'avoir double gestion et deux fois 7 milliards, comme je l'ai dit. Mais alors, il n'y a qu'à faire comme pour la CMU. Il faut que la Sécu puisse être également le complémentaire pour ceux qui le souhaitent. Vous paierez une cotisation supplémentaire, et comme la CMU, comme le régime Alsace-Moselle, qui est un régime particulier, vous pouvez avoir la Sécu comme assurance obligatoire et comme complémentaire. Je suis sûr qu'à ce moment-là, plutôt que payer une mutuelle, les gens prendront la mutuelle comme sécurité sociale. Et ça fera un seul financeur.
On va en rester là, mais on ne va pas en rester là dans les semaines et les mois qui viennent, parce qu'il y a énormément de questions au standard de France Inter, que toutes ces questions sont légitimes et que nous n'avons pas pu toutes les prendre ni y répondre très clairement pour l'ensemble. Donc, je remercie André Grimaldi, Serge Grouard, qui a dû nous quitter, quitter le studio de France Inter, et Frédéric Bizarre pour ce premier tour de piste qu'on fait sur les questions de santé qui, je pense, vont être cruciales dans l'élection présidentielle. Merci à tous donc pour ce téléphone sonne. On reprendra les choses où on les a laissées. Le journal de Laurence Thomas est à suivre dans quelques instants sur France Inter.